Entre-temps, entre nous, un partage de réflexions avec le doyen Philippe Capel-Dumont. Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 en compagnie du doyen Philippe Capel-Dumont, doyen honoraire de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, professeur des universités, professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg. En ce dimanche, cher Philippe, cher doyen Capel-Dumont, nous allons, si vous le voulez bien, parler d'un immense sujet, le bien et le mal. Le bien et le mal, ça peut être les deux faces d'une même réalité, et pourtant, certains mots ne peuvent pas être acceptés, certains biens sont souhaités. Comment est-ce que vous déterminez les frontières ?
Alors, c'est la grande question de l'humanité depuis l'aube des temps. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal ? Cette question peut être une question morale, ça peut être une question religieuse. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est mal au fond ? D'une certaine manière, qu'est-ce qui est mal ? Ce qui est mal, souvent, c'est insupportable aussi. C'est l'insupportable. Par exemple, je peux avoir mal physiquement. Et je préfère ne pas avoir mal, donc il y a du mal physique, continuellement j'ai mal, maman touche, maman j'ai mal à ma jambe, j'ai mal à mon bobo, j'ai mal. Il y a un mal physique qui peut d'ailleurs envahir l'être tout entier, ce n'est pas rien que ce mal physique, d'ailleurs ceux qui parfois en souffrent savent très bien que l'ensemble de l'esprit, l'ensemble de la personne peut être complètement anéanti par le mal physique. Bon, il y a le mal, en quelque sorte, dont on pourrait dire qu'il est moral. Par exemple, j'ai ma fille qui veut plus me parler, j'ai mon époux qui me pose des problèmes, j'ai mon enfant handicapé qui est, c'est dans le cas s'aggrave, c'est un mal moral. Je souffre par tendresse, mais aussi je vois bien que c'est lors de l'insupportable. Alors, je n'ai pas de souffrance physique à proprement parler, mais je suis là aussi envahi par ma psychologie qui n'a pas de ressources pour faire face et donc je suis anéanti. J'ai mal. Il y a un autre type de mal, c'est un mal en quelque sorte religieux, où quelquefois j'ai des doutes, je suis perdu, je ne sais plus s'il y a un Dieu, je ne sais plus quels sont les choix spirituels que je dois faire. Voilà, il y a plusieurs types de niveaux. Alors ce qui me frappe, c'est que toutes les sociétés ont toujours défini le bien, ce qu'on appelle justement la morale, les mœurs. Alors il y a plusieurs manières de le faire, ça peut être tout simplement parce qu'il faut bien vivre ensemble. Et donc, il y a une sorte d'utilité sociale de la morale. D'ailleurs, ce sont des théories que l'on a vues au XIXe siècle, l'utilitarisme, en quelque sorte, de la morale. C'est-à-dire qu'il faut bien des règles pour vivre ensemble. Et donc, qu'est-ce que la morale ? Eh bien, c'est une façon pour une société de vivre bien ou le moins mal possible. Bon, il y a plusieurs manières d'établir la morale. Aristote, déjà, au IIIe siècle, avait vu que finalement, la morale doit être relative à la vie bonne. C'est-à-dire une vie bonne et non pas simplement un devoir artificiel. Il faut être conduit par la meilleure vie possible. Et donc, d'une certaine manière, la morale est relative à la meilleure vie possible.
Philippe, on ne peut pas se borner à un code social. Non. Il y a quand même intrinsèquement le mal ou le bien en dehors de tout code social, à travers toutes les sociétés.
C'est vrai. C'est pourquoi, d'ailleurs, le texte biblique lui-même va jusque, me semble-t-il, au point le plus radical. Ce qui est bien, c'est ce qui donne la vie. Ce qui est mal, c'est ce qui donne la mort. Et donc, quand vous relisez d'ailleurs les grands prophètes bibliques, vous avez cette alternative, le bien et le mal, c'est ou la vie ou la mort. Et il faut choisir entre le bien et le mal comme on choisit entre la vie et la mort. Et Nietzsche avait écrit au XIXe siècle un livre qui s'appelle « Par-delà le bien et le mal ». Il considérait que toute la morale judéo-chrétienne devait être anéantie. Pourquoi ? Parce qu'elle était au fond la morale du ressentiment du faible. Pourquoi il y avait de la morale ? Parce que le faible a besoin de se protéger contre le fort. Donc, en établissant des systèmes moraux, le faible, eh bien, se garantissait en quelque sorte une vie relativement paisible. Donc Nietzsche dénonçait la morale judéo-chrétienne comme étant une morale du faible, et lui considérait précisément qu'il fallait une morale de la volonté de puissance de vie, avec toute la puissance des corps, la puissance des ressources intimes de l'être, et c'est cela qu'il appelait la volonté de puissance. Alors, en réalité, Nietzsche faisait fausse route, me semble-t-il, dans la mesure où il disait qu'au fond, si nous, quand nous voulons la vérité, quand nous voulons la morale, c'est que, en fait, nous voulons des valeurs parce que nous avons besoin de valeurs. Non, moi je dirais tout simplement, nous avons besoin de vie et nous voulons pas la mort. Et si nous voulons la vie, nous avons besoin de régler notre vivre ensemble, nous avons besoin de régler notre propre vie personnelle aussi. Donc c'est une affaire de vie et de mort, et non pas simplement de représentation du monde.
Alors ça, c'est une idée qui est assez nouvelle parce que les gens ont l'impression qu'il y a la frontière intangible entre le bien, le mal. Après, on s'en arrange peut-être à travers des codes sociaux ou des interdits sociaux ou au contraire des tolérances sociales. Mais là, vous soulevez une question sous un angle complètement différent.
Oui, parce qu'il ne faut, même la codification morale peut être intéressante, elle peut être pédagogique. Par exemple, on apprend des commandements en étant enfant, des règles de politesse, de vivre ensemble. Mais c'est pédagogique, ça donne une structure vertébrale. Il y a certains moments où c'est le choix de la vie, soit de la mort qui nous donne la bonne morale. Vous savez, je vais prendre un exemple. Thomas d'Aquin, qui n'était pas un révolutionnaire véritable, mais grand théologien du XIIIe siècle, l'un des, sans doute le plus grand, disait, bien sûr tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tuer, mais si tu te trouves dans des circonstances où ta conscience t'oblige à voler, notamment dans le cas où tes enfants meurent de faim, alors tu serais pécheur si tu ne volais pas. Et autrement dit, la codification morale simple, si vous voulez, simpliste ou primaire, ne suffit pas parce que c'est une question de vie. Or, si ton enfant va mourir et que tu ne lui donnes pas à manger, tu dois aller voler la pomme, même si tu n'as pas d'argent, dans le magasin. Ou inversement, si tu considères que quelqu'un va tuer et que tu ne tues pas la... Tu es en train d'aller contre ta conscience. Autrement dit, il y avait aussi un choix de la conscience qui est mobilisé. C'est-à-dire que la morale, ce n'est pas simplement une obéissance à un commandement externe, c'est aussi un choix intérieur. La conscience est mobilisée, la conscience morale, autrement dit. Et ça s'apprend. Évidemment, je ne peux pas décider de moi-même ce qui est bon par instinct, je risque de me faire piéger. C'est pourquoi il est bon aussi qu'un choix moral se fasse dans la conversation avec quelqu'un que nous aimons et qui nous aime. Souvent, nous sommes déconcertés pour savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et nous risquons de nous illusionner en restant seuls dans la prise de décision. Et il est bon que nous ayons une conversation avec quelqu'un que nous aimons, que nous ayons peut-être lu un tel ou tel livre, nous référer à telle ou telle histoire, peut-être la Bible, enfin, que sais-je, aussi pour nous donner les meilleures conditions de la décision. Autrement dit, vous savez, le mot moral, ça vient du mot mores, le mot morales, c'est les mœurs, n'est-ce pas? Donc il faut que nous puissions, en quelque sorte, vivre ensemble dans des mœurs qui soient acceptable, y compris pour moi, je dois aussi être en responsabilité morale par rapport à moi.
Donc au fond, vous relativisez un peu et le bien et le mal, Philippe.
Le mal est relatif à ce qui est essentiellement, enfin dans sa plus forte expression, c'est l'expression de la mort, si vous voulez. Hein. C'est ce qui est en quelque sorte de l'injustifiable. Il y a un philosophe du XXe siècle, Naber, qui disait au fond, qu'est-ce qui est le mal? Le mal, c'est ce qu'on ne peut pas justifier. C'est injustifiable. Et donc, d'une certaine manière, quand, par exemple, de tuer un enfant, ou de faire mal à un enfant, ou de tuer des peuples, des génocides entiers, c'est injustifiable. Il n'y a pas un seul motif de justification. Ça, c'est le mal. Et c'est le mal absolu. Et du même coup, cela fait naître en nous des potentialités de bonté et de bien. Alors, si vous voulez, quelquefois, je ne dis pas qu'il faut un mal pour un bien, mais le mal nous offense, nous met dans une situation de résistance, telle que peut-être devant certaines situations de mal, paradoxalement, nous pouvons faire jaillir en nous des ressources infinies de bonté.
Eh bien, c'est ce que nous allons souhaiter à nos auditeurs en ce dimanche, mon cher Philippe. Merci, merci à vous, doyen Philippe Capel-Dumont, pour nous avoir éclairés sur le bien et le mal, ou plus exactement, pour nous avoir donné un peu de recul sur ces notions que nous croyons quelquefois intangibles et séparées par une frontière terrifiante.